Bonsoir. Troisième son à la une de la tribune de la presse ce vendredi 21 novembre 2008. La rencontre dimanche dernier à Jomba au Nord Kivu entre l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et Laurent Nkunda. La proposition faite par le gouvernement congolais à celui du Rwanda d'envoyer des officiers de renseignement rwandais pour se rendre compte de la traque des milices hutu rwandaises FDLR et Interahamwe par l'armée congolaise. Enfin, l'installation momentanée du bureau du chef de l'État au Palais du Peuple, siège du Parlement, pour des consultations avec les députés nationaux et sénateurs sur la restauration de la paix à l'est de la RDC. Deux confrères et une consœur sont là pour en discuter. Eyenga Sana du quotidien Le Potentiel, Bella Mbouyi de la chaîne de télévision Africa TV et Claudine Bombo du quotidien L'Observateur. Qu'est-ce que fait d'actualité en retenu l'attention de la presse cette semaine? Notre confrère Pierrot et la Mégie a parcouru pour vous quelques journaux. Qu'a-t-il retenu d'essentiel? Vous le saurez dans cette revue de presse que nous fait.
Bonsoir. Les principaux journaux parus ce matin à Kinshasa commentent la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de renforcer la MONUC avec 3000 hommes supplémentaires. Le Phare écrit, je cite, « Cette résolution vient à point nommé car de nombreuses voix, et non de moindres, se plaignaient depuis quelques temps de la passivité de la MONUC face à la dégradation de la situation humanitaire avec sa cohorte de populations déplacées et abandonnées à elles-mêmes, fuyant les affrontements entre les FARDC et les rebelles du CNDP. Pour sa part, la Réponse Plus estime qu'avec ces 3000 hommes supplémentaires, la MONUC qui est habilité à utiliser tous ses moyens pour protéger les populations. Les journaux clients ont aussi commenté l'installation du bureau du chef de l'État au Palais du Peuple pour des consultations avec les parlementaires. Le Palmarès de mercredi dernier estime qu'il est difficile à Joseph Kabila de déplacer 50 députés et 108 sénateurs au Palais de la Nation, autant mieux qu'il effectue lui-même le déplacement au Palais du Peuple en vue de remplir cette tâche. Kabila sera détruit au Palais du Peuple, titre La Tempête des Tropiques. Enfin, la rencontre au Olusegun, au Obasanjo, Laurent Nkunda à Jomba dans le Nord Kivu a été commenté en début de semaine par les journaux kinois. Dans sa parution du 17 novembre dernier, le journal Uhuru se pose la question de savoir si la demande du cessez-le-feu de Laurent Nkunda à son hôte est un signe de bonne foi ou elle n'a pas de mauvais augure. Le mardi dernier, le Palmarès estimait que la rencontre entre Olusegun Obasanjo et Laurent Nkunda a amené le CNDP à se décider de retirer ses troupes à une distance de 40 km sur deux axes du Nord Kivu. C'est la fin de ce journal des journaux. Merci de l'avoir suivi.
Merci Pierrot et la Magie et Yenga Sana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au sein de la rédaction du quotidien Le Potentiel. Quelle a été d'après vous l'actualité la plus marquante de cette semaine, brièvement?
Brièvement, c'est exactement ce que le confrère a évoqué, notamment la rencontre entre l'ancien président nigérian et Nkunda. Et cette décision du Conseil de sécurité de pouvoir arranger, rectifier un peu, renforcer les troupes de la MONUC.
Voilà, justement, nous allons commencer par ça, ce renforcement des troupes de la MONUC qui se fera prochainement, décision du Conseil de sécurité. Je me tourne aussi vers vous, Bella Mbouyi, bonsoir.
Bonsoir, Claude.
Vous êtes directeur général de la chaîne de télévision Africa TV. J'espère qu'elle a déjà commencé à émettre.
Toujours pas, en tout cas, on a promis pour la semaine prochaine. Le ministre est en voyage à l'improviste, quoi, voilà.
Merci, on espère que ça sera pour très bientôt, hein, la réouverture de votre chaîne. Est-ce que, d'après vous, la presse a traité suffisamment les faits d'actualité le plus important, ou peut-être qu'il y a eu des non-dits?
Franchement, j'ai quand même été assez étonné par la façon dont la presse a abordé ou a refusé d'aborder les faits les plus importants de la semaine. Parce que vous vous rendez compte que le dimanche dernier, l'événement le plus important était le voyage du président Obasanjo à Jomba où il a pu rencontrer Laurent Nkunda.
Ça n'a pas été assez traité.
Mais vous imaginez, je me suis rendu le matin au kiosque pour voir un peu comment les journaux ont rendu ça. J'ai regardé à la une des principaux journaux, Au Potentiel, rien. La Prospérité, rien. La Référence Plus, rien. Africa News, rien. Sauf Uhuru, qui avait mis son manchette, le Palmarès, en deuxième titre.
Et dans la presse audiovisuelle,
L'audiovisuel, n'en parlons même pas. Nous préférons seulement regarder Euronews, France 24 et TV5. C'est quand même assez étonnant que personne n'a d'envoyé spécial, ne serait-ce qu'à Goma. Tout le monde nous fait des analyses des bureaux à Kinshasa. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai fait
réponse à Goma. Mais Radio Capia, des correspondants.
Oui, Radio Capia, des correspondants à Goma, mais ils ne sont pas passés à Goma. Ça m'a étonné. J'ai eu l'impression qu'ils se sont contentés. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait le reportage de Goma. En tout cas, j'ai bien suivi Radio Capia. Ils ont reporté ce que Obasanjo a dit à son retour de Goma.
Voilà, donc nous avons également au téléphone depuis Kananga, dans le Kasaï occidental, notre consort Claudine Mbombo. Bonsoir Claudine.
Bonsoir Claude.
Donc vous êtes journaliste au sein du quotidien L'Observateur, par essence ici à Kinshasa. D'après vous, est-ce que la presse étrangère a eu le même regard que les journaux congolais en traitant les faits qu'était fait en dominer l'actualité de cette semaine, notamment la rencontre au Obasanjo, Laurent Kunda et d'autres faits d'actualité?
Ils n'ont pas eu le même regard, mais c'était le seul moyen de communication que nous avons eu. Parce qu'en dehors des radios Okapi, tous les médias congolais font des analyses au bureau, comme vient de le dire Bella. Nous n'avons pas assez de moyens pour envoyer nos journalistes sur place. Ceux qui ont des correspondants sur place, nous n'avons pas vu des articles pour nous analyser objectivement ce qui se passe à l'Est. Quand nous analysons la presse étrangère, on sent qu'ils ont un objectif fixé par leurs États et qu'ils veulent faire goder au peuple congolais. C'est ce que moi j'ai constaté pendant la semaine.
Merci beaucoup, Claudine. Nous saluons la libération des 5 confrères de Raga TV qui avaient été arrêtés mercredi et jeudi dernier à Kinshasa par des éléments de l'Agence nationale des renseignements. C'était suite à la diffusion mercredi sur cette chaîne d'une interview du député national Roger Lumbala de l'opposition. D'après une dépêche de l'agence France Presse, ces députés avaient commenté la nomination d'un nouveau chef d'état-major à la tête des FARDC et l'installation momentanée du bureau du chef de l'État au siège du Parlement. Notre premier thème, comme nous vous le disions, c'est la rencontre entre l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, et le leader du CNDP, Laurent Kunda, dimanche dernier à Jomba, au Nord Kivu. Mais actualité oblige, le Conseil de sécurité a décidé ce jeudi à New York d'augmenter les effectifs de l'ONU en RDC. Selon la résolution 1843 adoptée à l'unanimité, les effectifs de la composante militaires seront accrus de 2895 éléments et ceux de la police de 300 éléments. Les 15 membres du Conseil de sécurité autorisent le déploiement immédiat de ces ressources, tout en précisant que cette augmentation valable jusqu'au 31 décembre prochain devra être reconduite à l'occasion du renouvellement du mandat de la MONUC. Depuis New York, Jérôme Longuet de la Radio des Nations Unies.
À l'issue de la séance, Jean-Maurice Ripper, le représentant permanent de la France qui préside l'Union européenne, s'est réjoui devant les journalistes que le Conseil de sécurité ait adopté de manière unanime le projet de résolution préparé par la France et ses partenaires, notamment européens, pour renforcer temporairement la MONUC afin de répondre aux demandes pressantes du département de maintien de la paix de l'ONU. Jean-Maurice Ripper.
La situation sur le terrain est suffisamment grave. Les violations du cessez-le-feu continuent. Un certain nombre d'exactions malheureusement se poursuivent. La situation humanitaire pour les déplacés est encore mauvaise. Il est donc nécessaire d'accompagner le processus politique que nous soutenons et nous nous réjouissons de la nomination de M. Obasanjo et du premier voyage qu'il a effectué sur le terrain. Il est nécessaire d'accompagner ce processus politique par un renforcement des structures militaires et donc de la MONUC. Nous espérons que ce mouvement de renforcement sera suivi dans quelques semaines lors de la discussion sur le renouvellement du mandat de la MONUC, d'une révision de ses modes d'intervention, d'un renforcement de ses règles d'engagement qui permettent réellement à la MONUC de protéger efficacement les civils et d'agir pour contribuer au processus de paix.
A noter que la force de la MONUC compte actuellement 17 000 hommes, ce qui en fait la plus importante mission de la paix de l'ONU. Le Conseil de sécurité devrait reconduire le 31 décembre prochain le mandat de la mission. À New York, Jérôme Longuet, la radio des Nations Unies.
Merci Jérôme Longuet. Je me tourne vers vous, Inga Sana. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein du quotidien Le Potentiel, par exemple ici à Kinshasa. Qu'est-ce que ce déploiement, l'autorisation du déploiement de 3000 hommes de troupes et de la police peut amener en termes de résolution de la situation sécuritaire ? pas du tout bon, hein, en République, à l'aide de la RDC. Qu'est-ce que cela va amener comme changement?
Ça se trouvait déjà dans le cahier des charges du représentant spécial du secrétaire général en RDC, M. Landos.
Il a finalement été écouté. Hein.
C'est exactement, c'est ça ce que je vous ai dit, qu'il fallait nécessairement qu'on puisse l'écouter et l'accompagner. Et il nous appartient à nous de capitaliser, c'est-à-dire les autorités congolaises, de capitaliser cette résolution du 1843.
Voilà, vous pensez que s'il avait été écouté depuis longtemps et que ses troupes, les troupes de la MONUC avaient été renforcées, peut-être qu'on n'aurait pas assisté à ce qui se passe actuellement au Nord Kivu?
Évidemment, c'est un problème de prévu. Pour moi, c'est une première étape dans le processus de désengagement que lui, il a initié ici. Nous devons écouter les amis, donc les autorités de la MONUC, pour que ce processus de désengagement puisse se poursuivre. C'est-à-dire quoi? Il y a le renforcement du côté sécuritaire tout en appuyant l'aspect politique. Mais il y a le problème de cesser le feu. À Kiwanja, ça ne va pas toujours. Hier, nous avons appris qu'il y a toujours des coups de feu par-ci par-là. Néanmoins, nous attendons à ce que la MONUC puisse être appuyée par toutes les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et la partie de Tunkunda.
Merci beaucoup, Ngassana. Bélard Mbouli, vous êtes directeur général de la chaîne de télévision Africa TV qui est mise en principe à partir d'ici à Kinshasa. Qu'est-ce que cela peut apporter de nouveau dans la résolution de la crise à l'est du pays, ce renforcement prochain des troupes de la MONUC?
Bien, ce renforcement n'est pas un fait du hasard, ainsi que l'a dit Ngansana tout à l'heure. Il découle du cahier des charges qu'avait présenté le représentant spécial secrétaire général de l'ONU en RDC à Landos. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude de terrain. Ils ont dû d'abord estimer les besoins qu'il faut pour pouvoir sécuriser suffisamment les populations en zone de conflit. Voilà, ce qui peut y avoir de plus, c'est que certainement que les populations seront beaucoup mieux protégées si jamais il y avait encore conflit entre les belligérants en présence. Encore faut-il souligner que la solution au problème qui se pose en réalité ne viendra pas de ce déploiement. Ça, il faut qu'on le dise assez fort, parce qu'on vient de suivre de New York, un haut fonctionnaire de l'ONU qui a dit qu'il y a un processus politique qui a été engagé avec la nomination du président Olusegun Obasanjo et que l'ONU entend accompagner ce processus-là. Donc la paix définitive viendra des protagonistes de la crise eux-mêmes.
Merci beaucoup, Bélard. Claudine Mbombo, est-ce que le déploiement prochain de ces 3000 hommes qui viendront renforcer la MONUC pourrait aider à relancer le processus politique visant à résoudre cette crise à l'est du pays?
Je ne sais pas. Je me suis toujours dit, si avec 17 000 hommes, on n'est pas parvenu à faire quelque chose. Est-ce qu'avec 20 000 hommes, on peut résoudre le problème? Je pense que le problème reste en entier. Et il y a une deuxième dimension. On peut bien arrêter la résolution. Mais combien de pays sont prêts à nous donner les troupes, à donner les troupes au Conseil de sécurité pour envoyer en RDC? Ça, c'est un problème. Quel est leur chronogramme? Ces troupes-là viendront quand? On ne sait pas. Bon, nous pouvons dire, comme les deux autres ont dit, c'était dans l'agenda du secrétaire général. Nous saluons cette action-là, mais je me dis, ça ne va pas changer grand-chose. Tant que la RDC n'aura pas une armée nationale structurée, nous aurons toutes les aides militaires, mais ça ne va pas nous avancer tellement.
Merci beaucoup, Claudine. Mais est-ce que la présence parmi ces troupes qui vont venir des forces spéciales, notamment les unités d'élite indienne, ne pourrait pas quand même aider à protéger les populations du Nord Kivu? Vous savez que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Landos, a écrit à Laurent Kunda pour dénoncer les exactions que son mouvement avait commis sur des populations aussi bien civiles, notamment civiles, des femmes, des enfants.
Oui. Je dis, quand on a tué les gens à Kiwanja, la Monique nous dit, quand cette population civile ne se retrouve pas dans le périmètre où il doit agir directement ou vite, cette population civile est exposée. Le moment que la Monique se prépare, que ses troupes se préparent pour intervenir, l'ennemi aura déjà commis le début et il sera déjà parti. Et la Monique viendra constater. Bon, avec les forces spéciales, ils ont parlé des infanteries, des bataillons, des hélicos, tout ça. Je me dis, si l'ennemi arrive à un périmètre où la Monique ne peut pas opérer directement, nous allons retourner dans le même scénario.
Donc,
nous allons toujours, il y aura toujours des morts et on viendra intervenir après. Je ne suis pas trop pessimiste, mais je me dis, peut-être qu'il faut d'abord changer le mode d'opération de la Monique sur terrain. Peut-être commençons par là. Commençons par là. C'est vrai qu'elle ne peut pas être partout et au même moment, mais du moins, si c'est dit dans quel périmètre je ne peux pas intervenir tout de suite. C'est difficile. Si peut-être on change le mode d'intervention, pourquoi peut-être aller. Mais elle a toujours besoin de troupes parce qu'à chaque point de presse ou moins d'actifs, on compare la situation de la RDC avec le Kosovo, qui est 50 fois moins que la RDC et qui a eu plus de 100 000 taxes bleues pour régler la situation qui était là-bas.
Merci.
Et la RDC n'en a que 17.
Merci Claudine Mbombo. Je rappelle que vous intervenez depuis Kasaï Kananga au Kasaï occidental. L'actualité donc cette semaine, comme nous le disions, c'était la rencontre dimanche dernier à Jomba, au nord Kivu, entre l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et le leader du CNDP Laurent Kunda. Dans cette rencontre, durant cette rencontre, Laurent Kunda a réitéré sa volonté de respecter le cessez-le-feu. Il a aussi demandé une rencontre sans condition avec le gouvernement congolais sous la médiation de l'ancien président Olusegun Obasanjo. Et Hassan, est-ce que cette rencontre peut donner ou susciter un certain espoir quand on sait que cette semaine, les troupes du CNDP ont reculé de 40 km sur certains axes au nord Kivu?
Ma préoccupation est beaucoup plus politique. Je crois que le général Obasanjo, en se rendant à Jomba, il avait une préoccupation à caractère politique. Ce n'était pas pour pouvoir régler le problème de sécurité, un problème militaire. Nous pensons bien que nous devons attendre de lui qu'il puisse nous dire ce qui s'est passé. J'avais dit un jour ici, que voulait ou bien que veut M. Nkunda, le général Nkunda. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas ce qu'il veut. Il a donné un semblant de réclamation en disant qu'il y a les cahiers, il y a le problème
des contrats chinois, il y a des minorités pour protéger la minorité nationale.
Normalement, il devait avoir une structure pour pouvoir discuter de ça. Ce n'est pas à un général de pouvoir discuter de ce problème. Donc, je considère que lorsqu'il soulève la question de contrats chinois, je considère que derrière tout ça, il doit y avoir soit la communauté internationale ou bien les multinationales.
Merci beaucoup, Inga. Béla Mbouye, est-ce que vous partagez le même point de vue?
Pas exactement. Moi, je pense que quand même, il y a eu plusieurs émissaires de la communauté internationale qui sont intervenus dans notre pays depuis le regain de violence qui date de mois d'août, pratiquement. Mais pour la première fois, quand même, c'est l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en personne. Et pour la première fois, quelqu'un qui va voir Laurent Kunda lui-même à Jomba. Tous les autres venaient à Kinshasa. Et de Kinshasa, il s'est rendu sur Kigali et ça s'arrêtait là.
Et Kunda a été apparemment très très content. On a vu les images à la télé.
Oui, bien évidemment. Apparemment, écoutez, je ne suis pas rentré dans son cœur pour savoir quels étaient ses sentiments.
Quand même,
c'est quelqu'un qui sourit tout le temps, de toutes les façons, habituellement, qu'on a souri toujours. Oui, bon, disons que pour la première fois, quand même, un émissaire important, qui après avoir vu le président de la République, est allé voir l'autre protagoniste de la crise.
Qu'est-ce qu'il a pu apporter?
Ce qu'il a pu apporter, justement, c'est un premier pas pour voir dans quelle mesure on peut arriver à trouver la solution définitive aux problèmes qui se posent et de façon politique. Mais pour cela, Obasanjo a eu à préciser. Il a dit le cessez-le-feu comme la solution politique. C'est comme le tango. Et le tango, pour le danser, il faut être à deux. Donc, quand on a fait le cessez-le-feu, il a retiré ses troupes de 40 km. Et on avait peut-être besoin d'un acte de bonne foi. Quand vient de poser la question, mais tu parles du cessez-le-feu, ces gens sont en train d'avancer vers Kanyabayonga. Il a dit non, non, ça va.
Mais ils avaient quand même violé ce cessez-le-feu, hein, le même jour, je
pense. Il y a
toujours hein, le même
des
dimanche.
Accusations contre accusations. C'est lui qui a attaqué, c'est moi qui ai contre-attaqué, tout ça. On ne sait pas vérifier le temps passe sur le terrain. Mais au moins, il a eu à donner finalement quand même un gage de bon pas en retirant ses troupes. Je pense que le passage de Obasanjo y est pour beaucoup. Et c'est un acte qu'il faut vraiment souligner.
Claudine Mombo, rapidement, pour terminer ce premier thème, Laurent Kunda demande des négociations sans condition avec le gouvernement congolais. Il réitère sa volonté de respecter le cessez-le-feu et d'ouvrir aussi des couloirs humanitaires pour aider les déplacés. Qu'est-ce que vous pensez que c'est quand même cette rencontre est apporte quand même un certain espoir dans la résolution de cette crise?
Pas du tout, Claude. Je ne suis pas d'accord. Ça ne rapporte rien.
Pourquoi?
Viens regarder les images sur les nets. Le général a passé en revue les troupes de Kunda. Vous savez ce que ça veut dire?
Ça signifie quoi?
Deux. Non, nous avons un gouvernement élu qui a été soutenu par l'Union européenne, par la communauté internationale. Aujourd'hui, quand le général passe en revue les troupes des rebelles, vous régnez en même temps le gouvernement élu.
Donc pour vous, c'est une
de négocier avec la rébellion.
Pour vous, donc, c'est une légitimation du mouvement de Laurent Kunda par la communauté internationale.
Oui.
Dans quel sens?
On l'a légitimé. Et quand il demande qu'on révise les contrats chinois, vous savez maintenant à quel jour Kunda et qui le soutient.
Merci beaucoup Claudine Mbombo. Donc cette semaine était aussi dominée par la proposition faite par le gouvernement congolais à celui du Rwanda pour que des officiers de renseignement rwandais viennent observer la trace par les FARDC des milices hutu-rwandaises, FDLR et Interahamwe, encore présents à l'est de la RDC. Et ces milices constituent, selon le gouvernement rwandais, une menace contre la sécurité de ce pays. La RDC donc vient de proposer cela au gouvernement rwandais. C'est ce qu'a aussi affirmé le ministre congolais des Affaires étrangères du Congo, qui a effectué dernièrement une visite de 2 jours à Kigali. Alexis Thambwe Mwamba a précisé que seuls les FARDC, la MONUC ainsi que les troupes armées pourront combattre les FDLR et non les troupes rwandaises. Alexis Thambwe Mwamba était au téléphone de notre confrère Willy Akonda.
C'est la République démocratique du Congo qui a proposé que Kigali puisse mettre à la disposition de nos forces armées des officiers de renseignement pour pouvoir constater. Parce que systématiquement, Kigali crie à la face du monde entier que nous coopérons avec les génocidaires qui sont nos alliés, qui sont intégrés dans notre armée. Et partout, on nous dit que nous avons intégré les FDLR et que nous sommes en train de les protéger. Je demande formellement la rumeur selon laquelle nous avons fait appel aux troupes rwandaises pour combattre les FDLR. Combattre les FDLR, c'est une opération qui sera faite par nos troupes et troupes amies qui pourraient venir, y compris la MONUC. Mais pour que Kigali ne continue plus à utiliser les FDLR comme prétexte aux interventions intempestives chez nous, nous avons proposé à Kigali d'envoyer ses officiers de renseignement militaires qui ne vont pas participer au combat, mais qui se rendront compte que ce combat-là se mène effectivement.
Le Rwanda est prêt à envoyer ses officiers de renseignement en RDC pour régler la question des FDLR. C'est en ces termes que s'est exprimé l'envoyé spécial du président rwandais, Paul Kagame, dans la région des Grands Lacs, face à la proposition du gouvernement congolais du week-end dernier. Joseph Mutaboba estime que la question des FDLR n'a que trop duré. Joseph Mutaboba était joint au téléphone par notre confrère Pierrot Elamegi.
Le Rwanda a accueilli avec remerciement à la délégation congolaise et nous espérons que les actions vont commencer parce que c'est ça qui compte, c'est pas seulement de nous inviter à aller regarder, c'est de former quelque chose à voir qui se passe.
À quand l'envoi effectif de ces officiers en RDC?
On va les envoyer quand le convoi sera prêt. Donc, si on nous dit venez demain, on ira. Si on nous dit venez hier, vous serez déjà parti, si on est plus prêt.
Est-ce que cette fois, vous pensez que cette procédure va régler définitivement la question des FDLR à l'est de la République démocratique du Congo?
Cette question a trop duré et la question n'a pas duré parce qu'il n'y avait pas d'observateurs rwandais dedans. Donc il faudrait que plutôt la raison pour laquelle cela n'a pas été fait jusque-là soit faite dans un levé et que les gens puissent voir l'action concrète qui vient, même après autant d'années. Il est jamais temps pour faire du bien, il est jamais temps pour faire du mieux.
Bélan Bouilly, comment interprétez-vous cette proposition du gouvernement congolais?
Écoutez, moi j'ai une vision des choses assez peu conformiste, hein, sincèrement, parce que moi je ne juge pas ce problème du point de vue du Rwanda, parce que les FDLR au jour d'aujourd'hui ne font aucun mal au Rwanda, ni à son peuple, ni à son territoire.
C'était depuis quelques années. Hein.
Depuis assez longtemps quand même, disons, depuis les raids sur Rwenguéri d'il y a très longtemps.
Et le président Kagame lui-même a affirmé que depuis un certain nombre d'années, ils sont une menace.
Oui, le Rwanda est un pays très sécurisé. Ils sont une menace éventuelle, qui peut subvenir dans un futur plus ou moins long. C'est ça. Mais les FDLR sont un problème pour le Congo aujourd'hui, ici et maintenant. Si pour que vous, les gens comprennent un peu ce que ça veut dire l'FDLR, quelques petits rappels historiques. Nous sommes le 27 mai 2007 à Kanyola, 17 morts, 13 personnes blessées, 5 personnes, dont 4 femmes amenées en forêt comme esclaves sexuels. Le 10 octobre 2005, Kanyola toujours, 50 personnes tuées. 23 mai 2005, à Ninja, 13 morts, 4 blessés, 4 personnes amenées en forêt. Enfin, 23 mai 2006, en Touloumamba, c'est un carnage, 50 morts brûlés dans leur sommeil, dans leur case. Alors, quand vous avez une telle horreur chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, non, écoutez, excusez-nous, c'est la communauté internationale qui nous a pas menés, nous allons demander un dialogue inter-rwandais au Rwanda, ou quoi que ce soit. Non, c'est un problème qu'il y a chez vous. Vous devez le résoudre pour permettre à ce que votre population puisse vivre en paix chez vous. Vous n'avez pas besoin d'observateurs rwandais pour ça. Vous n'avez pas besoin des observateurs rwandais pour ça. Donc c'est une menace contre la paix dans votre propre pays. Vous devez trouver la solution.
Et quelle est la source des informations que vous donnez?
Mais non, c'est des faits historiques qui sont passés. Le massacre de tout le moment, ils sont tous partis ici à l'époque à des messes de requiem pour prier Dieu pour qu'on a tué nos frères comme ça. Ce sont des faits. Il y a eu la lettre, je vous rappelais peut-être la lettre datée du 21 octobre 2005, écrite par Maître Idesbald Diabouze Katabaruka, qui est chef de travaux faculté de droit à l'UCB Bukavu. C'est un homme très respecté à Bukavu. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit aux autorités de l'époque. Il dit, abandonné à son triste sort, avec l'énergie du désespoir, notre population n'en finit pas de compter ses morts quotidiens.
Donc vous voulez dire,
lettre officielle,
vous voulez dire,
Desbal Gabouza a écrit en 2005.
Vous voulez dire par là que la RDC a plus d'intérêt que le Rwanda?
La RDC a plus d'intérêt
à prendre dans les cornes
La RDC a plus d'intérêt que le Rwanda.
Merci beaucoup. Votre lecture par rapport à cette proposition de la RDC au Rwanda, Yingasana?
On enfonce une porte déjà entrouverte.
Est-ce que finalement ça va mettre fin aux suspicions des deux côtés, hein, le Rwanda et la RDC qui s'entraculent souvent en ce qui concerne les FDLR?
Je voudrais dire ceci, que la rencontre de Nairobi avait préparé tout le monde pour qu'on puisse se retrouver régulièrement dans une commission de vérification sous la facilitation de la MONUC. Le gouvernement rwandais, tout comme le gouvernement de Kinshasa, devait se rencontrer tour à tour à Kisenyi et à Goma. Mais cette structure n'a jamais fonctionné. C'est une opportunité maintenant de pouvoir relancer cette structure-là.
Et d'ailleurs, le ministre britannique chargé de l'Afrique, de l'Asie et de l'ONU, qui était dernièrement en RDC et à Kigali, avait dit que le problème essentiel après les accords de Nairobi 1, l'accord de Goma, Nairobi 2. Le problème essentiel, c'était l'exécution, la mise en exécution des différentes mesures prises lors de suite à ces accords. Mais le problème, c'est que ces accords n'étaient pas mis en exécution. Est-ce que vous pensez, vous êtes du même avis que lui?
Exact, parce que même le ministre rwandais tout à l'heure, il disait qu'il attend qu'un signal soit de notre part. Il appartient maintenant à notre diplomatie de pouvoir convoquer, harmoniser ou bien arranger les relations entre Kinshasa et Kigali.
Claudine Bombo, vous intervenez, vous êtes du quotidien journaliste, du quotidien L'Observateur, vous intervenez depuis Tananga au Kasaï occidental. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette proposition de la RDC au Rwanda? Est-ce que finalement la présence des observateurs militaires, des officiers de renseignement rwandais pour observer la traque par les FARDC et des militants outo-rwandais va finalement mettre fin à ce problème des milices outo-rwandaises ou peut-être à la suspicion qui existe entre les deux pays?
Peut-être à la suspicion, oui, mais j'aime dire l'action qui va être menée, ça sera toujours au bénéfice du Rwanda.
C'est-à-dire?
Parce que tant que tant que les FDLR sont au Congo, c'est une sécurité pour le gouvernement rwandais actuel. Ils constituent une menace pour le gouvernement. Si on les rapatrie, ça sera un problème pour le gouvernement rwandais. Et les officiers de renseignement, en tant que patriotes, ils ne voudront pas donner un rapport du genre « Nous devons venir prendre nos hommes et les retourner sur le sol rwandais ». Parce que s'ils traversent de l'autre côté, c'est une insécurité pour le pouvoir en place. Donc nous, côté RDC, nous ne sommes pas toujours avancés. En tout cas pas.
Merci beaucoup. Je ne sais pas, rapidement, peut-être vous allez placer un mot. D'abord vous, Bella, en 30 secondes.
J'aimerais dire quand même qu'il y a longtemps, je crois que c'était début 2007, le président de la République avait pris le courage de prendre langue avec Laurent Kunda lui-même, à Kigali, en envoyant le général Djonombi. Ils ont décidé de mettre en place le message qui avait quand même commencé à obtenir des résultats sur le terrain, sur la lutte contre les FDLR. Il y a eu des élus.
Mais les populations du Nord aussi ont dénoncé les exactions des troupes du CNDP.
Je suis parti sur place. Le CNDP, FARDC, combiné, donc c'était FARDC en fait. Je suis parti sur le terrain, il y a Kakomanya, Mili, Mavitumbi, Routour, Tiwanja, Windy, partout, Nyanzale, comment ça s'appelle encore, Tebero, Kirolu, etc. J'étais parti partout.
Mais on a quand même déjà des fautes communes. Hein.
C'est une possibilité.
Oui, des exactions, c'est l'enquête
en tout. Oui, il faudra bien qu'on enquête sur tout ça, qu'on mette la lumière sur tous ces problèmes encore flous aujourd'hui. Mais j'ai parlé comme les gens étaient dans leur très large majorité, convaincu que le ministère fait un du travail par rapport aux anciennes FARDC et par rapport à la MONUC. Il faut dire ça. Il y a eu des élus qui, par du simple extrémisme, ont écrit au président de la République en mars 2007 pour lui dire qu'il fallait arrêter de traquer les FDLR, première chose. Deuxième chose, qu'il fallait plutôt mettre son message, et enfin, il fallait faire la guerre contre le Congo.
Mais certaines populations n'en voulaient pas, hein,
comme si, franchement, partout où je suis parti, je vais vous dire une chose. J'ai rencontré le commandant d'une brigade missée qui était à Rutshuru à l'époque. J'ai voulu l'interroger sur son travail. Il m'a dit, ne m'interroge pas, moi, va interroger la population. Quand tu m'auras accusé, viens me poser tes questions. Si tu allais interroger la population,
merci.
Tout le monde était satisfait. J'ai pas eu de questions posées à ce colonel.
Merci. Mais quand même, Ingasana, vous êtes journaliste au sein du Potentiel. Il y a quand même beaucoup de suspicions, hein, des réticences de certains Congolais quand il s'agit d'avoir, par exemple, des officiers rwandais ici en territoire de la RDC pour observer la traque des FDLR. Si je ne me trompe pas, le gouvernement rwandais avait à une certaine époque proposé même ses services d'envoyer des troupes ici pour aider les FARDC à traquer justement les FDLR. Est-ce qu'on s'achemine aujourd'hui vers ce processus?
Je ne pense pas parce qu'il y a lieu de pouvoir juger, apprécier cette démarche en rapport avec la réforme du secteur de la sécurité. Nous avons des problèmes au sein de notre armée. Et cela n'exclut pas qu'on puisse accepter, quelles que soient les circonstances, des officiers de surcroît de renseignement venir nous aider, comme vous l'avez dit, non.
Est-ce qu'ils sont là pour observer, se rendre compte, comme l'a dit le ministre Sambo Mwamba, ou ils pourraient également fournir des renseignements sur les Interahamwe et autres milices au FARDC pour mieux les combattre?
De combattre, il y a eu la réunion, la rencontre de Kisangani qui a décidé qu'il y a eu, sous la facilitation de la communauté internationale, soit ces gens-là, on doit les localiser, les rapatrier ou chercher un autre lieu d'asile. On a connu à un certain moment les réfugiés à Kadumba qui sont maintenant aux États-Unis. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire pour ceux du FDLR.
Merci Claudine, on va terminer avec vous ce dossier. Vous n'êtes pas très très chaude hein, quant à la présence des officiers de renseignement rwandais ici pour observer, se rendre compte de la traque des FDLR par l'armée nationale. Alors, est-ce que le gouvernement congolais, d'après vous, fait suffisamment d'efforts, fournit suffisamment d'efforts pour justement traquer ces miliciens hutu-rwandais qui causent beaucoup de tort aux populations congolaises plutôt que rwandaises, hein, comme venait de le dire Belamboui?
Justement, c'est ça notre affaire. Yes, l'Europe ne veut pas créer ces gens-là. Mais non, la RDC n'est pas vraiment suffisamment bien armée pour les traquer. Et ça, ça arrange le Rwanda. Quand on envoie les officiers ici, moi, je me dis que c'est une injure contre l'armée nationale. Nous, on n'a pas assez des officiers de renseignement qui peuvent renseigner le gouvernement rwandais sur ce qui se passe en RDC.
Mais
moi, je suis désolée.
Mais quelle solution préconisez-vous finalement? Parce que ce sont les populations congolaises qui sont massacrées, oui, par ces FDLR.
La solution est simple. Il y a eu des accords Nairobi et tout ça. Qu'on regroupe ces gens-là dans les différents sites et que le gouvernement rwandais vienne chercher tous ces éléments. Après tout, ce sont des soldats rwandais.
C'est si facile. C'est si facile que c'est là quand on sait que certains d'entre eux, excusez-moi, ont participé au génocide hein, de 1994. Ils craignent la justice.
C'est pourquoi je t'ai dit la présence de ces gens-là en RDC arrange le gouvernement rwandais. Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si vous voulez chasser les FDLR, prenez vos avions, mettez-les dedans et ramenez-les sur les sols rwandais. C'est pas normal.
Merci.
Tout ça, ce sont des manœuvres pour traîner la question, pour traîner l'affaire.
Merci, Claudine. C'est par vos propos qu'on va passer au troisième et dernier thème de cette tribune de la presse. Le président de la République va s'installer momentanément au siège du Parlement, le Palais du Peuple. C'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a annoncé le mardi 18 novembre dernier lors d'un point de presse tenu ici à Kinshasa. Vital Kamerhe, sans donner des précisions sur la durée de l'installation du bureau du chef de l'État au siège du Parlement, indique que c'est dans le cadre des consultations avec les parlementaires sur la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Vital Kamerhe souligne en outre qu'il a cédé volontairement son bureau pour des raisons de sécurité et de commodité et que la présence du chef de l'État n'est nullement anticonstitutionnelle. Ces propos avaient été recueillis mardi dernier par notre consoeur Marie-Chantal Lumba.
Je ne voudrais pas que les gens croient que le président de la République m'aurait appelé pour me dire « je viens » occuper votre bureau et à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus votre bureau. Ça, c'est faux. Ce qui est vrai est que le président de la République a voulu faire des consultations, mais dans les locales situés à l'entrée du Palais du Peuple. Et je me suis dit, puisqu'il s'agit de consultations, j'ai proposé au président de la République de tenir ces consultations dans mon bureau qui remplit toutes les normes, aussi bien sur le plan sécuritaire qu'autres consultations qu'il avait annoncées dans son message à la nation pour une union sacrée de toutes les forces politiques et sociales du Congo au moment où le pays est menacé. Ceci est du reste conforme à la demande des députés et sénateurs. Puisque si c'était pour établir le bureau, j'allais être le premier à lui dire non, monsieur le président. L'article 5 du règlement intérieur interdit à quiconque de venir violer les installations du Parlement.
Belamboui, je me tourne directement vers vous. Ce déplacement ou cette installation momentanée du chef de l'État au siège du Parlement a quand même posé problème hein, dans la classe politique congolaise et même dans la presse. Il y a eu beaucoup d'interrogations. Certains analystes ont même parlé de la violation du principe de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle lecture vous faites de cela?
J'en pense que c'est quand même une première mondiale qu'un président de la République
quitte ses bureaux pour aller s'installer au siège du Parlement, soi-disant pour faire des consultations. Écoutez, tout ça dépasse tout mon entendement.
En quoi cela empiète le travail des députés et des sénateurs?
Déjà, oui, ça va empiéter le travail. Regardez, le président se promène avec une garde assez costaud quand même. Donc, quand il est dans un lieu, ça veut dire que le cordon sécurisé est très renforcé. Vous devez tous être soumis à des contrôles rigoureux avant d'entrer. Imaginez, dans votre propre institution, vous devez être soumis à des fuites comme ça, quand même assez difficile. Mais il va aller consulter tout le monde. Il aurait été simple qu'il fasse cette demande-là, que Kamere la soumette aux parlementaires, que ceux-ci soient et puissent s'informer, au lieu d'être surpris de cette manière-là.
Vous pensez que l'information n'est pas bien passée, la communication?
Pas du tout, mais regardez, il y a beaucoup de députés d'opposition qui s'y opposent. Alors, il va consulter qui, si dans l'opposition, disons, nous ne venons pas parce que vous avez violé notre cadre de travail. Et de là, je vais me dire un petit mot avant.
Rapidement.
Très rapidement. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud où le gouvernement se trouve à Pretoria et le Parlement à Cape Town, dans une autre ville très éloignée. Vous allez me dire que le président sud-africain ne consulte pas les sud-africains députés?
Mais on n'a pas les mêmes infrastructures, hein, les mêmes niveaux de développement.
Non, mais ils sont dans la même ville. Non, j'ai du mal à comprendre le pourquoi de cette initiative.
Merci, Yenatana. Vous avez aussi du mal à comprendre cette initiative.
Exact. C'est pourquoi je considère que ce problème-là, c'est vraiment pour moi un faux débat. Et il y a aussi déficit de communication, parce que s'il y a des problèmes à pouvoir gérer la communication via des consultations, le président a toute cette latitude de pouvoir consulter n'importe où, mais néanmoins, il y a lieu de pouvoir demander à ses services de dire de quoi il s'agit. Prendre une institution en otage pratiquement, c'est assez un peu bizarre.
Mais comment le président va-t-il prendre une institution en otage dans la mesure où le président Kamere dit que c'est pour des raisons de sécurité et qu'il lui a cédé son bureau, mais il semble que le président ne va pas interférer dans les travaux législatifs.
On ne refuse pas, mais il fallait expliquer d'abord aux députés pourquoi le chef de l'État arrive chez eux, qu'est-ce qu'il va faire, et au lieu de se trouver devant un plateau.
Voilà, donc Claudine, comment vous réagissez par rapport à cette levée de bouclier de certains politiques et même de la presse, hein, qui n'a pas vraiment bien compris cette installation momentanée du bureau du chef de l'État au sein du Parlement?
L'initiative est louable, mais excusez-moi de le dire, je pense qu'il y a un problème de déficit communicationnel au niveau des services de la présidence. Comme il en vient de le dire, si on avait pris quelques jours, ne fût-ce que deux ou trois jours, pour expliquer et aux députés et à la population la raison du déplacement du président de la République vers les palais du peuple. Il n'y aura pas eu toutes ces rumeurs, toutes ces suspicions. Mais cela n'a pas été fait. C'est vrai, le président de l'Assemblée nationale vient de dire qu'il a été consulté. Mais est-ce que les députés étaient aussi informés à temps? Ça, on ne sait pas. Mais il y a aussi un problème pour les palais du peuple. Les déplacements du président, vous savez ce que ça coûte. Il y aura un sérieux problème de circulation dans la ville. Moi, j'habite au l'Est. Et je me dis, pendant les jours normaux, la circulation pose problème, il y a trop d'embouteillages. A fortiori, si le président doit se déplacer, je ne sais pas moi si ça sera chaque jour ou à chaque plénière, je ne connais pas son emploi du temps. S'il doit se déplacer chaque jour vers les palais du peuple, vous savez quel problème de circulation ça va créer.
Mais c'est momentané, c'est pas éternel, hein? C'est pas éternel.
C'est pas éternel, mais on ne sait pas combien de temps les concertations vont prendre. On ne sait pas. Et s'il doit se déplacer chaque jour, vous savez ce que ça va nous causer comme problème social, hein, de circulation. Mais l'initiative est bonne. La présidence ou l'institution président a péché par la communication faible. C'est pourquoi les gens ont ainsi réagi.
Merci beaucoup. Nous n'avons plus beaucoup de temps, malheureusement. C'est par vos propos que nous terminons cette émission. Merci à ma consoeur et à mes deux confrères d'avoir participé à cette émission. Jean-Claude Toumbaka Mangala réalisé, Sylvain Baogueré était à la technique et Mimi Kindo à la mise en onde. Merci à Sikin Boutou, Karine Kaja, Berli Chaïka, Kéline Couté et Pierrot et Damégi qui vont nous préparer. Je vous dis au revoir et bon week-end chez vous. Thank you.